Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui en interview numéro 2 Aurélie Billot, directrice commerciale Habitat Île-de-France de Mathieu Hébard. Bonjour Aurélie.
Bonjour Myriam.
Bon, alors effectivement, on ne va pas vous cacher les choses. Nous connaissons depuis un certain temps. On a fait un très 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 beau projet ensemble à Ivry il y a quelques années quand tu étais dans une autre entreprise qui était Paris Ouest à l'époque. On a parlé de... on a commencé une petite interview numéro 1 sur plafond de verre, etc. Donc j'incite les auditeurs, hommes ou femmes, évidemment, à bien l'écouter. Mais là, j'aimerais bien qu'on parle conception-réalisation parce que effectivement, aujourd'hui, on est dans un système, on doit aller vite, on doit construire du logement. Toujours très long, un peu trop long, parce que effectivement, les procédures administratives, il y a un certain nombre de choses qui font que on ne sait pas pourquoi, mais même quand on veut aller vite, c'est long. Et la question de la conception-réalisation pour gagner du temps se pose. Et donc, j'aimerais bien... Quel est le pourcentage aujourd'hui sur les affaires en habitat de conception-réalisation versus marché classique, hein?
Je dirais que ça dépend des années, mais on doit être pas loin du 50-50.
Ah oui, ouais, déjà, ouais, quand même. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que... aujourd'hui, quand on fait de la conception-réalisation, on est sûr de, quelque part, non seulement maîtriser les coûts, mais ne pas être dans une situation où on tord le bras aux architectes, parce que parfois, on avait peur de ça à l'époque.
Ah oui, au début, tout à fait, ouais, ouais. Comme ça a commencé. Non, ben justement, je pense que chacun a trouvé sa place dans la conception-réalisation. Je pense qu'effectivement, une conception-réalisation ne fonctionne que s'il y a un respect mutuel de ce que chacun peut apporter à l'autre, enfin aux autres, puisqu'on n'est pas que deux. Mais c'est vraiment ça. C'est, je pense qu'une conception-réalisation qui marche, c'est quand il y a un cadre établi clair au niveau financier, effectivement, parce que c'est quand même important pour nous. Enfin, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises générales. Et dans ce cadre-là qui est plus ou moins précis, il y a un architecte qui peut s'exprimer totalement et dont le projet évolue au fur et à mesure de la conception, mais dans un cadre qui est effectivement tenu par une entreprise.
Alors en même temps, c'est pas toujours facile parce que même quand on a un programme et on répond à un concours, on sait très bien que là, l'équipe, elle rend un prix, voilà, et que la maîtrise d'ouvrage va avoir au fur et à mesure, même une fois qu'on est lauréat, des velléités d'enlever ci, d'enlever ça, etc. Ça veut dire que quelque part, le prix, il est pas fixe.
Si, le prix est fixe, justement. C'est ce qui change avec les conceptions-réalisations, c'est que quand il y a pas de, enfin, quand c'est un appel d'offres classique, le maître d'ouvrage change, effectivement, peut changer son dossier, et l'architecte et le bureau d'études évoluent en fonction de la demande, et donc le prix peut être fluctuant. Là, en conception-réalisation, même si la demande évolue, le prix ne peut pas changer. Donc, il y a des arbitrages à faire, et ça se fait justement...
Je te donne ci, tu me donnes ça, et, je t'enlève
voilà,
ci,
ça fait un peu
marchand
de tapis,
ça,
mais
ouais.
C'est un peu ça, quoi. Nous, on doit garder notre prix, donc il faut qu'on travaille avec l'architecte et le bureau d'études pour qu'on...
Quelle que soit l'évolution du prix du pétrole, de l'augmentation des fournitures, comme on l'a évoqué tout à l'heure.
Ça dépend comment est ficelée la conceptualisation. C'est-à-dire, mais que ça soit une conceptualisation ou un appel d'offres, c'est la même chose. Si le prix est ferme, effectivement, il faut qu'on prenne en compte tout ce qui est évolution de prix qui est indépendante du projet. Si le prix est irrévisable ou actualisable, on peut, dans ces cas-là, ne travailler que sur le projet sans regarder l'évolution de prix qui est de toute façon...
Et est-ce que ça vous permet, vous, entreprise, de mobiliser les sous-traitants potentiels d'une manière précise qui fait qu'on est sûr d'avoir le bon sous-traitant qui ne va pas déposer son bilan et, on va dire, une espèce de d'équipe constituée, fixe, pour le bien du projet?
Ça dépend du projet, effectivement. Il y a des projets où on a besoin d'un sous-traitant pour un point technique très particulier. Et dans ces cas-là, effectivement, on le désigne très, très tôt. C'est presque un co-traitant, entre guillemets, mm-hmm. même si légalement, c'est pas la même chose. Mais sinon, après, on travaille tous avec des sous-traitants avec qui on a l'habitude de travailler, qu'on suit. Et effectivement, si on sent une moindre défaillance, on peut effectivement les aider du mieux qu'on peut pour pas qu'il y ait ce genre de choses, effectivement.
Quelle est aujourd'hui la part dans un projet de conception réalisation de logement, quelle est la part de Mathieu Hébard entreprise, je sais pas, sur le gros œuvre, etc., versus les sous-traitants? Le gros œuvre, il est toujours fait en interne?
Oui. Je pense que c'est effectivement la valeur des entreprises générales, c'est qu'on garde effectivement notre gros œuvre. Alors après, on sous-traite plus ou moins certaines choses. On sous-traite un certain nombre de choses, mais effectivement, on a nos propres ouvriers, on a notre propre maîtrise, et c'est important de garder ça, je pense, en interne, effectivement.
Alors, est-ce que vous développez aussi, on va dire, des process dans le cadre de conception-réalisation, des process de préfabrication? Parce que on se dit aujourd'hui, quelles sont les différentes façons de gagner du temps? Hein, parce que bon, l'argent évidemment, mais le temps. Donc, outre la conception-réalisation, est-ce que ça vous arrive de travailler avec les archis, même si c'est pas demandé a priori, sur de la préfabrication?
Alors, je vais répondre en deux temps. La première, c'est que chez De Mathieu, il y a un fournisseur qui s'appelle Caprimib qui fait effectivement de la préfabrication béton. Bois, béton, etc. Mais voilà. Donc, quand on a besoin de faire de la préfabrication, on peut s'appuyer sur cette composante de notre groupe. Sinon, effectivement, il y a le bois qui est assez important encore. Donc, on a dans ces cas-là des partenaires, puisqu'on n'en a pas nous en interne. Après, en fonction de chaque dossier, on voit dès le début avec l'architecte si cette préfabrication peut être une donnée importante pour le maître d'ouvrage. Et c'est quelque chose qu'on, dans ces cas-là, on intègre en accord avec l'architecte et qu'on travaille ensemble. Oui, ça, on n'a pas de dogme là-dessus. Je pense que c'est l'intérêt de Mathieu Hébard par rapport peut-être à d'autres. C'est qu'effectivement, on est assez souple pour savoir, en fonction de chaque dossier, comment réagir et être à l'écoute.
Alors, on dit qu'aujourd'hui, tu disais que 50% des projets en habitat aujourd'hui auxquels vous répondez sont en conception-réalisation. Est-ce que du coup la maîtrise d'ouvrage a le sentiment d'être un petit peu moins partie prenante, de perdre un petit peu de ses qualités de maître d'ouvrage? Comment ça se passe après dans les relations avec les équipes,
hein? Alors, il y a des maîtres d'ouvrage qui ne veulent pas faire de conceptualisation, parce que justement, ils ont peur de perdre leur statut, entre guillemets. Donc ça, eux, ne font pas de conceptualisation. Et ceux qui en font, justement, je pense qu'ils ont l'habitude. Et donc, ils savent très bien se placer vis-à-vis d'un groupement. Certains, effectivement, nous disent clairement, par exemple, en phase conception, je veux que le mandataire soit l'architecte pour justement garder ce lien-là.
Ah, d'accord, ok, ça arrive.
Voilà, oui.
C'est rare quand même.
Mais il y en a qui le font justement pour essayer de garder encore cette position. Et puis d'autres, effectivement, sont un peu plus ouverts, savent que de toute façon, c'est dans l'intérêt du projet. De toute façon, un architecte ne fera pas contre son gré, on est d'accord. Donc de toute façon...
Ah bah on est d'accord, oui.
Donc de toute façon, quelque part, il est garant vis-à-vis du maître d'ouvrage du projet final, ouais.
Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, puisque l'idée, c'est de trouver des solutions pour aller vite... tu es archi, t'es ingé, avec espérons-le dans les prochaines années un petit poste en COMEX, je ne dirais rien. Non, mais c'est une subtilité. Écoutez l'interview numéro 1, vous comprendrez pourquoi. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait aller plus vite? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait mettre en place des méthodes de travail pour pouvoir répondre plus vite, construire plus vite?
Alors effectivement, sur chantier, la préfabrication, le hors-site, etc., sont des choses qui répondent à ce genre de choses. Et en amont, peut-être, mais ça dépend ni de toi, ni de moi, ni même des maîtres d'ouvrage, c'est peut-être simplifier un peu les procédures françaises.
Administratives,
voilà,
oui.
Peut-être que ça peut déjà aider, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de contraintes, de process, etc., qui sont très longs en France, et qu'on peut-être complexifie aussi de toute façon déjà un peu plus.
Mais parce que on a quand même l'impression que les permis de construire en logement, on va dire quand on est en troisième famille A, troisième famille B, enfin un truc un peu classico, on va dire, pas en quatrième famille, on a l'impression que quand même on pourrait très bien faire un pré-permis juste avec une façade, une insertion urbaine. Voilà, parce que ça fait plaisir aux élus, parce que on gagne sur une image, parce que etc. Mais à la limite, sans savoir comment sont les logements à l'intérieur, parce qu'au fond, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut un PC balai. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des adaptations entre PC pro, DCE, chantier, etc., etc. Donc l'archi est habitué à avoir un process de légère modification du projet, hein, sans faire non plus la révolution. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, pour aller plus vite, que ça se décide à la limite juste sur une image, une insertion urbaine,
Alors là, moi, je suis pour, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs, pour revenir sur les conceptions-réalisations, c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est que quand on est adjudicataire d'une conception-réalisation, on nous demande de déposer le permis le plus rapidement possible maintenant. Avant, il y avait un process qui était un peu plus lent, maintenant, on nous dit déposer même sur un APS un peu plus évolué, APD, on va dire. Donc, on sent que les choses essayent d'aller dans ce sens-là, quitte à modifier au fur et à mesure. Mais après... c'est toujours, je pense que les maires ont besoin peut-être d'un peu plus de, ou en tout cas pas les maires, mais en tout cas leurs équipes ont besoin d'un peu plus d'infos peut-être techniques pour les rassurer. Peut-être qu'une façade n'est pas suffisante. Normalement, ça devrait être suffisant, mais peut-être qu'il leur en faut plus. Peut-être que, mais après, est-ce que tous les architectes veulent déposer sur une façade sans avoir construit les logements à l'intérieur?
Non, on peut déposer un permis, sachant que de toute façon, après, on va redéposer un balai,
un PCM,
quoi. Enfin bon. Un PCM ou une fois que le... Non, je pense, je vois pas en quoi les archis pourraient être contre, parce qu'au fond, si ça permet de construire plus vite, je pense que c'est... c'est pas nous qui sommes dans les secrets des dieux et des lois. Est-ce qu'aujourd'hui, les conceptions, réalisations qui font donc 50%, aujourd'hui, avec le recul, c'est... c'est vraiment, on va dire, une bonne manière d'aller vite et de faire bien.
Nous, on aime bien parce qu'effectivement, ça nous permet d'être très en amont. De par exemple, si on arrive en appel d'offres et que on a besoin de chaque entreprise a son savoir-faire, etc. Donc, si à la fin de l'appel d'offres, on dit on a une meilleure idée, enfin une meilleure idée, c'est prétentieux. Mais si on a une idée pour peut-être gagner un peu d'argent ou redessiner un peu le sous-sol ou des choses comme ça, ça refait perdre du temps. Tandis que si on est très en amont, on peut dès le début donner notre savoir-faire qui est propre à chaque. Voilà. Mmh. Et donc partir dans la bonne direction pour le bien du projet. Mais voilà, c'est très.
Bon, mais c'est tout ça, c'est très optimiste.
Très, toujours.
Merci Aurélie et merci pour ce sourire. Chers auditeurs, à bientôt sur nos antennes.
À bientôt.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.